C'est bon? Donc, on va commencer alors. Nous avons commencé à notre réunion. Je pense que ça está tudo muito bem. Aqui o Paulo Paixão que fala português. Eu gostava, sou presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, eu gostava, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, saudá-lo a si pessoalmente, saudar a sua delegação que o acompanha nesta visita a Portugal e nos diversos encontros que vai ter com o Parlamento, com grupos parlamentares e com membros do Governo. Dizer-lhe, Sr. Presidente, que é para nós uma honra poder receber aqui o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é um órgão que se tem assumido como fundamental na cooperação intergovernamental, nas áreas políticas, sociais e culturais, e dizer que é um órgão no qual este Parlamento está representado. Temos aqui, desde logo, a deputada Maria de Belém, eu próprio sou membro suplente, deputado do membro suplente da delegação ao Conselho da Europa, e o Portugal integrou o Conselho da Europa em 1976, e os deputados que têm feito parte das delegações do Parlamento Português têm também realizado um trabalho notável, muito particularmente, a deputada Maria de Belém e o deputado Mendes Bota, que estão ligados a campanhas relativas a direitos, na defesa de direitos, seja da violência doméstica, seja também na defesa da questão das crianças. Dizer também, Sr. Presidente, que em termos pessoais, Sr. Presidente é alguém que está em Portugal, mas eu sei que tem uma grande proximidade com o nosso país, porque é deputado por um círculo eleitoral e presidente de uma Câmara onde vive uma importante comunidade portuguesa. Não é por acaso que tem aqui um português ou um franco-português que o acompanha nesta deslocação. Isso para nós também é importante porque esta é uma comissão que trata as questões de política externa. Esta é a sala onde realmente têm lugar as reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas também a nossa comissão também chama das comunidades portuguesas e essa proximidade com a nossa comunidade residente no país onde exerce funções políticas também para nós nos é cara. A reunião vai decorrer, primeiro daremos a palavra ao Sr. Presidente, em seguida, no qual poderá solicitar as questões que entender aos diferentes deputados e grupos parlamentares aqui representados. A seguir, darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares e o Sr. Presidente poderá finalizar, não só respondendo eventualmente a algumas questões que sejam suscitadas e também, para como é evidente, concluir, digamos, esta reunião. Nós temos o almoço previsto cerca de meio-dia e 40, portanto temos aqui praticamente uma hora à nossa frente para podermos tratar de matérias importantes, muito particularmente o relacionamento entre este Parlamento e o funcionamento da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Sei que também tem uma reunião com o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas que acabei de ver, ele próprio foi membro de uma delegação ao Conselho da Europa, ou seja, há uma grande proximidade entre as pessoas que o vão receber, com quem vai se encontrar e o órgão que tem a honra de presidir. Assim sendo, dava-lhe a palavra, Sr. Presidente.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et chers collègues et chers amis, si je peux me permettre. Je suis accompagné d'une délégation au sein de laquelle il y a Monsieur Paulo Peixão, et qui est l'un de mes adjoints en mairie de Damary-les-Lys, la ville dont je suis le maire, et qui est exactement le conseiller des communautés portugaises, membre de la commission de la participation civique et politique du Conseil des communautés portugaises, et conseiller au Conseil consultatif du Consulat général du Portugal à Paris, auprès du consul général, M. Pedro Lourti. Vous voyez un peu la carte de visite qu'il a. Impressionnant, voilà. Et j'ai souhaité qu'il m'accompagne parce que je pense que c'est important aussi pour lui d'entendre et puis d'être dans cet Parlement. Voilà, je voudrais vous dire que d'abord, un parlementaire se sent toujours très à l'aise dans un Parlement, quel que soit le Parlement. C'est vrai que depuis que je préside l'Assemblée parlementaire, j'ai eu l'occasion de visiter un très grand nombre de Parlements. Et que rentrer dans ce qu'on appelle la maison de la démocratie est toujours quelque chose de particulièrement émouvant quand on sait que c'est ici, du fait de la légitimité que vous détenez du peuple, que nous détenons de nos peuples respectifs, nous sommes là pour voter les lois, pour décider de la politique de nos pays, et tout ça, bien sûr, mérite le plus grand respect, tout ça pour vous dire aussi qu'il faudrait peut-être que les responsabilités que nous occupons soient peut-être davantage valorisées aux yeux de la population qui a un petit peu trop tendance à dire oh, les politiques tous les mêmes, de toute façon ils parlent mais ils n'agissent jamais ou pas suffisamment. Dire que je me dois de venir vous voir et de vous rendre des comptes, de répondre à vos questions. Vous êtes en droit de demander au président de l'Assemblée parlementaire ce qu'il a fait de son mandat, quelles sont les actions que j'ai menées, quels sont les résultats concrets que j'ai obtenus au cours de ces deux années et qui se sont écoulés, puisque vous savez que j'arrive au terme de mon mandat à la fin du mois de janvier. Je me dois donc de vous rendre des comptes à vous, au président du Parlement, au président des groupes politiques, aux représentants de l'ensemble des 47 États. Alors, bien sûr, on ne va pas en 45 minutes évoquer tout ce qui a été fait. Je ne vais pas vous redire certainement ce que vous savez si vous regardez avec attention les communications qui sont à la disposition des parlementaires à l'occasion de chacune des sessions. Non, j'ai souhaité venir ici pour différentes raisons. Ce n'est pas la première fois que je viens à Lisbonne, vous le savez, puisque j'avais participé entre autres à la remise du prix Nord-Sud au début de l'année 2012. Mais je souhaitais absolument revenir à Lisbonne en voyage officiel, ce qui est le cas aujourd'hui, et aussi parce qu'il y a le centre Nord-Sud. Bah. J'ai beaucoup discuté avec Madame Deborah Bergamini, et qui est l'ancienne présidente du comité exécutif du Centre Nord-Sud, avec aussi M. Jean-Marie Haidt, qui est le président de la conférence des ONG, qui est l'une des quatre parties, on appelle ça le quadrilogue du Centre Nord-Sud. J'ai aussi beaucoup discuté avec mon ami Miguel Martinez, qui est l'ancien et le président de l'Assemblée parlementaire, qui m'a accueilli lorsque j'ai fait mon entrée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur le Centre Nord-Sud. Centre Nord-Sud qui est une émanation, qui est un organe qui a été créé du fait d'un accord partiel au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe et qui aujourd'hui est en discussion. Certains États considèrent qu'on peut s'interroger sur le fait d'avoir un centre Nord-Sud, à quoi sert-il, que fait-il, etc., etc. Et puis sur le fait aussi qu'il y a eu, il y a très peu de temps, le groupe de travail du comité des ministres qui a réfléchi sur l'avenir du centre Nord-Sud, qui a rendu ses conclusions et qui a demandé au centre Nord-Sud de répondre à quelques exigences bien précises que j'ai ici d'ailleurs, avant 2015. Moi, j'ai voulu venir pour m'exprimer ce que j'ai fait hier en ouverture de cette conférence qui se tient à Lisbonne, forum de Lisbonne, le centre Nord-Sud de Lisbonne, pour donner ma position, qui est ma position propre, qui n'est pas forcément celle de mon pays, vous le savez, et qui n'est pas forcément celle d'un certain nombre d'autres pays. J'ai été frappé au cours de ces 2 ans de présidence, à travers les différents déplacements que j'ai faits, notamment au sud de la Méditerranée, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie. J'ai été frappé aussi lorsque je suis allé en Italie, lorsque je suis allé en Grèce, lorsque je suis allé en Bulgarie, lorsque je suis allé à Chypre, lorsque je suis allé à un certain nombre de pays, de cette fracture qui existe entre le Nord et le Sud. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très gênant. Et il faut absolument que nous agissions pour réduire cette fracture existante entre le Nord et le Sud. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui au sud de la Méditerranée ne concerne pas les pays du sud de l'Europe. Ça concerne tous les pays. Ça concerne l'Europe entière et bien au-delà. Je crois qu'il faut que les uns et les autres nous prenions responsabilité. Je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui nous avons tous besoin de dialogue. Nous avons besoin de confronter nos idées, d'échanger nos idées. Nous avons besoin véritablement d'aider ces pays. Alors, je crois qu'il existe un certain nombre d'organes qui dépendent du Conseil de l'Europe. Le Centre Nord-Sud en est un. Il existe beaucoup d'autres organes aussi et qui méritent d'être pris en considération et qu'on regarde avec intelligence, avec objectivité aujourd'hui si ces organes peuvent ou non apporter leur contribution pour régler ces problèmes. Pour moi, la réponse est oui. La réponse est oui, et je crois qu'il faut que tout le monde s'en rende compte. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que les États qui sont les plus critiques vis-à-vis du centre Nord-Sud sont aussi des États, des grands États qui font partie de l'Union européenne. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'Union européenne est l'un des principaux financeurs du centre Nord-Sud. Donc c'est non seulement paradoxal, mais il y a une contradiction qui ne m'échappe pas. Hier, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait M. Léon, qui était le président donc, de ce forum de Lisbonne, avec beaucoup d'intérêt, et c'était très positif ce qu'il disait. Et je crois qu'il a parfaitement, lui, compris à quel point il faut que nous appuyions sur ce centre Nord-Sud. Moi, je ne crois pas du tout aujourd'hui que ce centre Nord-Sud, c'est une position personnelle que j'exprime, soit un motif à faire des économies. Je pense qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas avoir comme seule perspective de faire des économies lorsqu'on parle de démocratie et lorsqu'on parle aujourd'hui des problèmes auxquels vous êtes confrontés, auxquels nous sommes confrontés par rapport aux événements qui se passent au sud de la Méditerranée. Problème d'immigration. Mais il y a pire que les problèmes d'immigration. Il y a aussi ces réfugiés et qui expriment la nécessité de quitter leur pays, leur sol natal, parce que la démocratie n'existe pas. C'est à nous, à travers le dialogue entre le Nord et le Sud, à travers la diplomatie parlementaire que je m'emploie à mettre en avant depuis ce mois de janvier 2012 qui m'a conduit à la présidence de l'Assemblée parlementaire. C'est mon ambition, je crois que c'est peut-être l'ambition de tous les démocrates, l'ambition de tous les Européens, l'ambition de toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux valeurs que nous portons au Conseil de l'Europe, ces valeurs qui tournent autour des droits de l'homme, autour de l'état de droit, de la démocratie. La Commission de Venise, qui est un autre organe du Conseil de l'Europe, fait un travail tout à fait remarquable en conseillant ses États sur l'écriture de leur future constitution ou sur la révision des constitutions existantes. Donc ça, c'est le rôle du Conseil de l'Europe. Et je souhaitais vraiment, avant la fin du mois de janvier 2014, venir à Lisbonne, revenir à Lisbonne pour marquer mon attachement et pour, même si je suis, je le sais, en porte-à-faux avec ce que pensent certains grands États, dont le mien, en disant attention, attention, nous avons un outil fabuleux à travers le Conseil de l'Europe. Il ne faut pas saucissonner en tranches le Conseil de l'Europe. C'est un tout. C'est une organisation qui, depuis 1949, fait ses preuves. Elle l'a prouvé dans les années 90 avec la chute de l'Union soviétique. Nous sommes confrontés depuis quelques mois, 2 ou 3 ans maintenant, avec ces événements que personnellement je parle comme étant des événements, je ne veux pas parler de printemps arabe, j'étais de ceux qui étaient tout à fait opposés à cette appellation purement journalistique et qui ont qualifié ces événements de contestation qui ont abouti sur la chute d'un certain nombre de dictateurs dans ces pays-là. Je crois qu'il ne faut pas simplifier, il faut prendre en considération tout cela et le Conseil de l'Europe a un rôle excessivement important à jouer. Donc moi, bien sûr, j'attends l'avis des parlementaires portugais, italiens, espagnols, français, grecs, tous les parlementaires des pays qui sont en première ligne, mais aussi l'avis des autres parlementaires. J'ai essayé au cours de ces 2 ans d'encourager, de favoriser les relations bilatérales avec d'autres organisations régionales. Je pense que nous avons eu le tort au cours de ces dernières années de ne pas favoriser, de ne pas encourager ces accords qui existent entre le Conseil de l'Europe, son Assemblée parlementaire surtout, et certaines organisations régionales. C'est ce que j'essaye de faire avec le Conseil nordique, avec le Conseil arctique, avec la communauté des États indépendants. Je suis allé m'exprimer devant la communauté des États indépendants à Saint-Pétersbourg. C'est la première fois qu'un président d'Assemblée parlementaire était invité à venir s'exprimer devant l'Assemblée interparlementaire de la communauté d'État indépendant à Saint-Pétersbourg, avec cette organisation qui regroupe tous les États autour de la mer Noire. C'est important pour nous. Malheureusement, je n'ai pas pu faire plus parce que le temps me manque, mais je crois qu'il y a vraiment là quelque chose d'important. Je suis très heureux, vous le savez aussi, d'avoir eu ces contacts avec... plus que les contacts, c'est ce dialogue et cette volonté de travailler ensemble avec les Nations Unies, que ce soit à l'occasion des 2 voyages que j'ai faits à New York, mais surtout à l'occasion du déplacement que j'ai fait à Genève, où j'ai pu rencontrer le haut représentant des Nations Unies chargé des réfugiés, que vous connaissez bien, et pour cause, parce qu'il a joué un rôle important dans votre pays, la haute représentante chargée des droits de l'homme. Et cette volonté, cette action positive de voir aujourd'hui les Nations Unies qui disent « Oui, on a besoin de vous, le Conseil de l'Europe, on a besoin que vous nous aidiez, on a besoin de vous utiliser pour ce que vous savez faire, on peut travailler ensemble. » Un exemple, sur le monitoring. Vous savez qu'aujourd'hui, ma volonté est d'aller plus loin sur la réflexion que nous devons avoir sur le monitoring. Il ne faut pas que le monitoring devienne à nouveau une source de fracture entre certains États membres du Conseil de l'Europe qui sont sous monitoring ou sous post-monitoring et ceux qui sont sortis de monitoring. L'intérêt des Nations Unies, c'est que tous les pays, chaque année, sans exception, qui sont membres des Nations Unies, font leur propre examen périodique universel. Ce qui devrait nous faire réfléchir aussi et voir si le monitoring qui a été introduit à l'initiative de la Finlande en 1997 au Conseil de l'Europe est toujours approprié à la situation dans laquelle nous vivons. Ma réponse est non, clairement non. Voilà, je suis allé en Turquie, je retourne à Moscou pour la deuxième ou troisième fois la semaine prochaine, je suis allé en Ukraine, je suis allé dans tous les pays qui sont sous monitoring. Je crois qu'il faut qu'on arrive, nous, à comprendre qu'il faut fédérer plutôt que diviser et fracturer une organisation comme le Conseil de l'Europe. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il faut relâcher le monitoring. Non, un État qui a pris les engagements doit les respecter. Mais peut-être y a-t-il moyen de le faire d'une manière beaucoup plus, comment dirais-je, humaine, bon, peut-être plus positive, plutôt que de voir certains pays qui se sentent humiliés par le fait d'être sous monitoring. Dire que j'ai, à l'occasion de ces 2 ans de présidence, essayé de parcourir toutes les capitales européennes. J'ai encore quelques déplacements à faire. J'irai à Madrid prochainement. J'ai beaucoup appris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et j'apprends tous les jours. J'ai encore appris hier au Centre Nord-Sud, lorsque j'ai écouté les différents intervenants. Donc je crois qu'il faut que le Conseil de l'Europe prenne aujourd'hui une autre dimension. Je crois qu'il faut que la voix du Conseil de l'Europe porte. Pourquoi est-ce que la voix du Conseil de l'Europe aujourd'hui a tendance à ne pas porter? Parce que nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Ça, c'est dramatique. J'ai fait une expérience et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis allé en Tunisie en voyage officiel. J'avais invité à m'accompagner le président du comité des ministres, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Albanie, au moment où l'Albanie présidait le comité des ministres. Et j'avais demandé à Gianni Buquicchio, qui est à Lisbonne aussi également aujourd'hui, de m'accompagner. Un petit peu, le président de l'Assemblée parlementaire, le président du comité des ministres, le président de la commission de Venise, qui se rendent en voyage officiel à Tunis, ça avait de l'allure. Nous avons parlé d'une seule voix dans nos conférences de presse. C'est dommage que sur d'autres sujets, il n'y ait pas cette coordination qui est nécessaire, comme c'est le cas dans d'autres organisations, pour qu'on soit beaucoup plus lisible, pour qu'on puisse être davantage pris en considération. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment pris en considération au sérieux, entre autres par l'Union européenne. Vous savez que j'ai multiplié les actions auprès de l'Union européenne pour leur faire comprendre. J'ai même entendu certains dire « ce serait bien si finalement en Europe on avait une deuxième chambre, la première pour eux étant le Parlement européen, une deuxième chambre qui serait un peu le Sénat européen ». Ils sont complètement oubliés que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe existe et que c'est une réalité et que le Parlement européen, que l'Union européenne est finalement l'enfant légitime du Conseil de l'Europe. Donc je crois que si nous sommes inaudibles, si aujourd'hui on n'est pas pris davantage en considération, c'est parce que nous aussi, nous avons des responsabilités et nous avons des torts. Et ces torts, il faut absolument que nous les assumions. Frappé de voir l'Union européenne, vous le savez, on a déjà parlé ensemble, qui prend des initiatives pour créer des organes qui existent déjà. L'Agence des droits fondamentaux à Vienne, qui n'est finalement qu'un Conseil de l'Europe bis. Et puisqu'ils vont s'occuper des mêmes missions, des mêmes compétences que le nôtre, le haut représentant chargé des droits de l'homme pour l'Union européenne, qui n'est autre qu'un second commissaire européen des droits de l'homme, Euronest, qui concerne les pays qui sont hors Union européenne, ils sont tous membres du Conseil de l'Europe. Donc je crois qu'il serait peut-être bon d'utiliser à bon escient et d'une manière efficace ce qu'est le Conseil de l'Europe, les outils du Conseil de l'Europe pour faire avancer les choses. Je ne vous parlerai pas de tout ce que j'ai fait en ce qui concerne l'autre sujet phare qui était le mien, l'autre priorité importante qui était la mienne, celle sur les conflits gelés. Vous savez certainement les actions que j'ai menées en Arménie, en Azerbaïdjan, le fait que j'ai réussi à réunir ce qui ne s'était pas passé depuis 17 ans, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, dans la même salle, les deux délégations parlementaires d'Azerbaïdjan et d'Arménie, les mettant face à leurs responsabilités. J'aurais aimé que le comité des ministres fasse également de même, parce que laisser présider une organisation comme le Conseil de l'Europe par deux États membres qui sont en guerre l'un contre l'autre, quelque part, ça discrédite quand même l'organisation. Beaucoup travaillé sur la Moldavie, la Transnistrie, vous le savez, les relations que j'ai rétablies avec la Russie sont excessivement intéressantes. Beaucoup travaillé aussi avec l'Ukraine, beaucoup. L'Ukraine préside actuellement l'OSCE. L'Ukraine est donc membre du groupe 5+2 chargé de régler le problème entre la Moldavie et sa région séparatiste de Transnistrie à double titre, en tant qu'État membre du groupe 5+2 et en tant que président de l'OSCE. Il faut travailler avec l'Ukraine. Très heureux aussi de voir que la Suisse et la Serbie, qui vont présider l'OSCE à la suite de l'Ukraine, ont décidé dès maintenant de travailler ensemble, de définir leurs priorités ensemble, et qui sont dans la droite ligne de ce qu'a fait l'Ukraine, ce qui veut dire que nous pouvons aussi avoir quelques espoirs sur la question. Très heureux aussi de voir qu'avec nos amis russes, les relations sont redevenues normales avec la venue de Sergueï Naryshkine, qui est venu s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et qui a fait une prestation qui était tout à fait remarquable, et très heureux de l'invitation qu'il m'a lancée à venir le revoir la semaine prochaine à Moscou à l'occasion d'une conférence importante qu'il organise, ce qui me permettra aussi, bien sûr, je l'espère, de rencontrer de hautes autorités russes, notamment M. Rogozin, je l'espère, pour parler du conflit en Transnistrie. Voilà, si vous voulez, beaucoup de choses. Je finirai par, pour moi, ce qui a été la cerise sur le gâteau, l'entretien en tête-à-tête que j'ai eu avec le pape François il y a quelques jours à Rome, ce qui est un événement pour moi en tant qu'homme, bien sûr, mais je pense pour l'Assemblée parlementaire, parce que voir son président bénéficier d'un entretien en tête-à-tête de 40 minutes avec le pape dans son bureau au Vatican n'est pas un événement banal, même s'il n'a pas été médiatisé comme il aurait dû être médiatisé. J'espère que l'invitation que j'ai lancée au pape François à cette occasion de venir s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sera suivie d'effet, comme ça avait été le cas avec le pape Jean-Paul II, et que le message qu'il pourra délivrer, le message de tolérance et toutes les paroles aujourd'hui prononcées par le pape vont, à mon avis, dans le bon sens. Voilà, un petit peu longuement, je vous prie de m'en excuser, ce que je pouvais dire. Merci.
Sr. Presidente, muito obrigado. Registramos de forma muito positiva o facto de vir aqui ao nosso Parlamento, no fundo, falar daquele que foram os dois anos no exercício desta presidência. Há aqui deputados que acompanham muito o trabalho da Assembleia Parlamentar, mas é verdade que, por vezes, a opinião pública, às vezes até no seio dos próprios Parlamentos, há um desconhecimento do papel que desenvolve o Conselho da Europa, e a sua vinda aqui, e a agenda da sua vinda aqui, vai permitir, certamente, também dar visibilidade ao Conselho da Europa, que é um órgão também interparlamentar, porque os parlamentos estão representados de 40 e tal países, que é algo de notável. Nós estamos um pouco limitados pelo tempo, mas ainda temos mais de meia hora, penso eu. Eu vou dar a palavra agora aos diferentes grupos parlamentares aqui presentes e dando em primeiro lugar ao PSD, ao deputado Ricardo Batista Leite.
Olá, muito bom dia. Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e a toda a sua delegação e dizer que, em nome do Partido Social Democrata, é de facto uma honra receber-vos na Assembleia da República e replicar as palavras do Presidente em funções sobre também o facto de louvarmos a sensibilidade especial que tem para com as comunidades portuguesas pela Europa fora, em particular no seu país de origem. Louvo também o trabalho e o esforço que tem sido público, que tem feito nas funções de Presidente da Assembleia Parlamentar, de assegurar que haja uma maior aproximação do Conselho da Europa e da União Europeia. Penso que, em matérias de direitos humanos, é determinante que possamos todos falar a uma só voz, o que nem sempre aconteceu da forma mais eficiente no passado, e sei que tem feito um grande esforço nesse sentido, assim como considero fundamental as palavras que traz aqui hoje, no sentido de otimizarmos os recursos que o Conselho da Europa tem, na sua plenitude, para melhor usarmos os recursos à nossa disposição. Deixo apenas algumas perguntas, não diretamente relacionadas com o Centro Norte-Sul, embora tenha tomado nota das suas palavras, mas, direto ou indiretamente, há a questão inevitável e que certamente tem estado a monitorizar, que surge também com a tragédia de Lampedusa, que é a questão da imigração. Gostaria de saber, enfim, qual é o posicionamento sobre todo este debate que tem surgido sobre a necessidade de uma nova política de imigração à escala europeia. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com aquilo que se refere a... que tem sido chamado pela comunicação social como a escravatura dos tempos modernos, o explorar de muitos trabalhadores à escala europeia. Ainda recentemente tivemos notícias de portugueses nessas condições em países da própria União. Como é que têm monitorizado estas questões? Bem, sei que o enfoque tem sido muito para as novas democracias, para países que, de facto, precisam de um grande apoio neste processo de crescimento democrático, mas, claramente, as antigas democracias, as democracias consolidadas, também vão apresentando sinais de fadiga, e penso que o Conselho da Europa e a Assembleia Parlamentar têm um papel importante nesse acompanhamento. E a terceira e última pergunta, porque o tempo é curto, temos de matéria para conversa de várias horas, mas como é que entende a relação, as relações interparlamentares no mundo atual e muito em particular no seio da Europa, sendo que há margem para aprofundarmos estas relações? Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria de Belém, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República no Conselho da Europa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, com certeza, saudar também o meu Presidente Mignon, Jean-Claude Mignon, que, como Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que eu integro, é um gosto vê-lo novamente em Portugal. Tivemos já a ocasião de o receber em Lisboa várias vezes, designadamente no âmbito da campanha para as funções que atualmente ocupa, e talvez seja importante eu referir que, embora pertencendo a agrupamentos políticos diferentes, que apreciamos como extraordinariamente positivo o papel que o Presidente Mignon tem desempenhado enquanto Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Penso, aliás, na sequência desta prestação de contas que aqui nos trouxe, que fica claro que, em aspectos essenciais, o nosso posicionamento político é coincidente. Consideramos, aliás, trágico, e tivemos a oportunidade de o referir, a saída de alguns países da Europa do Norte, do Centro-Norte-Sul, porque consideramos que o Centro-Norte-Sul está longe de ter esgotado a sua razão de ser. Pelo contrário, todos os acontecimentos atuais sublinham a importância da sua existência, não apenas enquanto organização militante da transmissão dos valores do Conselho da Europa a outras regiões do mundo, próximas, nossas vizinhas, onde eles não são praticados, como no próprio âmbito da grande Europa, que o Conselho da Europa representa e que é bastante mais do que a União Europeia, tal como tem sido a sua evolução recente. Para Portugal, a pertença, a integração no Conselho da Europa é algo que nos diz muito, uma vez que ela só foi possível na sequência do quadro democrático, e consideramos que a sua missão tem que ser enfatizada em tempos, como o Sr. Presidente Mignon sublinhou, em que as questões económicas têm vindo a sobrelevar as questões ligadas aos direitos fundamentais e aos valores. Não há dúvida que a missão do Conselho da Europa ancora radica em valores e, como é evidente, a economia é instrumental, como aliás já consta de relatórios de enorme qualidade produzidos pelo Conselho da Europa, alguns dos quais eu tive oportunidade ou de ser relatora ou de contribuir para a sua elaboração. Queria sublinhar também que os verdadeiros problemas que hoje afetam o mundo têm sido abordados pelo Conselho da Europa com grande coragem e grande determinação. E se dúvidas houvesse, a questão ligada e aos problemas ligados aos paraísos fiscais e à corrupção seriam por si só justificativos da visibilidade do papel do Conselho da Europa, que não se esgota, como é evidente, e não pode ser diminuído pela teimosa existência da organização e da nova agência da União Europeia sobre os Direitos Humanos. Essa agência não tem funcionado designadamente, como o Sr. Presidente referiu e bem, nos países do Sul, que têm sido afetados pelas crises da dívida soberana, crises essas que a única coisa que significam é que a Europa, a União Europeia, está dividida e que é, portanto, fundamental que a grande Europa, o Conselho da Europa, não esteja dividida. E é aquilo que nós esperamos e valorizamos no papel do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, é precisamente esse trabalho, no sentido da união de uma Europa que não pode estar dividida entre os puros e os impuros, entre os pecadores e os virtuosos, e, portanto, Estados que entendem castigar outros como se tivessem legitimidade para esse efeito. E, portanto, dizer ao Sr. Presidente Mignon que, porventura, terá aspirações a qualquer outro lugar no Conselho da Europa na sequência do termo do seu mandato como Presidente, e que será interessante falarmos talvez um pouco sobre esse futuro e não tanto sobre o passado, uma vez que o passado do seu mandato, que ainda se prolonga neste presente imediato, é por nós valorizado como muito positivo, na defesa da missão do Conselho da Europa, primado da lei, direitos humanos, democracia, e que nós achamos que, apesar de estarmos no século XXI, quando julgávamos que tudo isso já seria um adquirido que ninguém ousaria pôr em causa, verificamos neste deambular do século XXI que continuamos a precisar e precisamos cada vez mais do Conselho da Europa, defensor e promotor do primado da lei, dos direitos humanos e da democracia. E, portanto, gostaria um pouco de ouvir o Sr. Presidente comentar mais esta questão política e da importância do papel do Conselho da Europa como matriciador de aspectos que são absolutamente essenciais. E eu, aliás, enquanto relatora de um projeto importante, um relatório importante que está agora em curso na Assembleia Parlamentar sobre o modelo social do século XXI, ouvir um pouco o Sr. Presidente sobre como é que analisa as perturbações que hoje em dia se estão a passar numa União Europeia que integra também o Conselho da Europa através dos seus países, que deveria ser o bastião modelar da democracia para os outros países que integram o Conselho da Europa e que ainda estão muito frágeis nas suas instituições democráticas, e que era importantíssimo terem como modelo a União Europeia para poderem reforçá-las. E muito obrigada pela sua visita a Lisboa. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS-PP, que é Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Vice-Presidente e toda a delegação que o acompanha. E dizer-lhe que foi com particular gosto que o ouvi falar sobre uma questão que aparentemente está ausente do discurso e do debate europeu. De facto, a questão do Mediterrâneo, classificando-a assim de uma forma muito simples, é algo que pôs a nu não só a incapacidade como a desarticulação da União Europeia em lidar com um problema que ainda não percebeu que é um problema que pode pôr em causa um projeto de coesão. Classificar, no mundo global que hoje vivemos, classificar os problemas como sendo de norte ou de sul, do país A ou do país B, é, salvo o devido respeito, um perfeito disparate. Porque os problemas são de todos nós, são do mundo e não se resumem a fronteiras. Dizer-lhe, Sr. Vice-Presidente, que é com particular atenção que o CDS acompanha as questões dos direitos do homem e de minorias étnicas. Aliás, o nosso deputado Telmo Correia faz parte exatamente do tratamento dessas questões. E, portanto, é com particular atenção que acompanhamos não só o discurso da União Europeia, mas a falta dele. A incapacidade demonstrada para resolver este problema relacionado com o Mediterrâneo é óbvia, mas a articulação entre os países da União Europeia, em termos internos, e depois os países da União Europeia enquanto um todo, com o outro lado do Mediterrâneo, é demonstrativa, de facto, de alguma falta de visão, da visão de uma Europa protecionista que se fecha sobre si própria e é incapaz de ver para além das suas fronteiras, que obviamente condiciona o discurso político e condiciona as suas soluções. O que permite também verificar que, infelizmente, a Europa coesa, um projeto de coesão de solidariedade entre os povos, não está tão coesa quanto deveria estar. Se há alguma coisa de positivo que esta crise financeira tem demonstrado, é de facto salientar as diferenças e salientar que as brechas que existem e as fraturas que existem entre os povos podem pôr em causa esse projeto de coesão. Ao ponto de dizer, Sr. Presidente, que de facto as crises económicas podem ser rapidamente solucionadas, assim seja vontade dos países, mas as crises de natureza cultural ou civilizacional raramente o são. E esta crise também permitiu pôr a nu algum discurso de ódio dentro das nossas próprias fronteiras. É óbvio e patente que discurso de ódio contra as minorias étnicas dentro de alguns países começam a salientar-se, começam a ser um problema, e mais do que lhe perguntar se está preocupado com isso, que óbvio que já demonstrou que está preocupado, é saber o que de facto a Europa e as instituições que enumerou podem fazer para travar não só esse discurso de ódio, mas acima de tudo a proteção de quem de facto precisa de proteção, que são as minorias étnicas, e acima de tudo salvaguardar os direitos dos homens, que somos todos nós. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Para finalizar, penso eu, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e a sua comitiva, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, desejar-lhe as boas-vindas aqui à nossa Assembleia da República. A Assembleia Parlamentar, enquanto espaço de intervenção e denúncia em matérias de direitos humanos, é um instrumento, na nossa posição, na nossa perspectiva, é um instrumento que deve ser usado e deve ser potenciado até pelos parlamentares europeus. E por isso compreendemos a preocupação do Sr. Presidente com as diferenças que encontra entre o Norte e o Sul, dividido este pelo espaço do Mediterrâneo, nomeadamente as diferenças entre a Europa e os seus vizinhos do Norte da África e do território asiático que mais próximo está da Europa. Estas diferenças são bem visíveis no drama da imigração clandestina e daqueles que morrem e dos que felizmente não morrem e que conseguem sobreviver ao atravessar o Mediterrâneo, mas este, e por isso consideramos que este órgão, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, tem um papel importante na reflexão deste problema, sobre este problema. Ainda mais que em muitos daqueles países que levam ou que, a que pertencem grande parte destes imigrantes clandestinos, há multinacionais europeias instaladas e a explorar os seus recursos. E isto não deve passar ao lado da discussão e de uma reflexão mais profunda sobre este problema. Temos também uma preocupação, que já foi aliás referida aqui, desta nova realidade da Europa em que a imigração dentro da própria Europa volta a ter uma presença muito forte. Uma imigração que é muitas vezes salvaguardada pelas posições da União Europeia, nomeadamente nas matérias da mobilidade dos cidadãos e a questão da mobilidade laboral, que serve muitas vezes de proteção ou de escudo para uma reflexão mais profunda sobre estas dificuldades. E isto cria aqui, na nossa posição, ou existe aqui uma diferença que deve ser observada, que nós diferenciamos aqueles que emigram por sua vontade, e aqueles que são obrigados a sair do seu país porque não têm condições económicas, sociais, políticas para lá estarem. Infelizmente, Portugal atravessa neste momento uma situação complicada em que os números da imigração estão a aumentar e a Europa é um dos principais espaços de imigração dos portugueses. Dizem os dados oficiais que no último ano terão sido à volta de 120 mil portugueses que saíram do país, nos últimos dois anos terão sido à volta de 250 mil, sabemos também que França é um país por excelência de recepção dos portugueses e aquele onde existe a maior comunidade de portugueses no exterior. E isto preocupa-nos, quer pelas questões de exploração laboral que estão associadas a esta imigração, que também já foram aqui referidas, não só dos portugueses na Europa, e são constantes as preocupações que nos chegam, também associadas a um novo modelo de relações laborais muito assente em empresas de trabalho temporário, mas também uma preocupação que está em Portugal. Também em Portugal há a exploração da mão de obra imigrante de outros países da Europa, nomeadamente de leste, e com grande peso na Roménia, de exploração e de imigração ilegal e de exploração da mão de obra. E, quanto a nós, o desenvolvimento da Europa e o desenvolvimento de Portugal não pode passar pela exploração de seres humanos. Uma das pedras de toque da resolução dos nossos problemas tem que passar pela redistribuição da nossa riqueza e esta forma não é sem dúvida, a forma de o fazer. E esta imigração também surge e aumenta numa altura em que os países, nomeadamente Portugal, dadas as condições também económicas, está a retrair aquilo que é a sua presença junto das comunidades, nomeadamente nas questões do ensino da língua portuguesa, daquilo que é a sua rede de áreas consulares. Há uma retração também relacionada com as opções políticas ligadas às questões económicas do país e quando há mais imigrantes, na nossa perspectiva, há menos Portugal junto das comunidades, e isso é uma preocupação, mas esta não é uma situação exclusiva de Portugal e, por isso, sendo uma situação de toda a Europa, penso que o Conselho, a Assembleia Parlamentar, também pode ter aqui um papel. Por último, eu próprio também sou membro da delegação parlamentar do Conselho da Europa, sou membro suplente da delegação parlamentar, tive duas vezes em reuniões, mas infelizmente deixei de poder ir pelas questões financeiras que também a Assembleia da República vive. Decidiu-se a determinada altura que havia uma posição desta Assembleia que participava no Conselho da Europa todos os partidos que tinham todos os membros suplentes da delegação, mais participavam na Assembleia Parlamentar todos os membros efetivos, mais os membros suplentes dos partidos que não tivessem efetivos. E por isso, como o meu partido não tem membros efetivos, eu participava nessa condição. Por causa das questões financeiras, deixei de poder participar, o que eu julgo que é uma pena, porque, na minha perspectiva, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa é um espaço com uma carga fortemente ideológica. E a representação plural é importante para manter e para acentuar a democracia, principalmente em órgãos que têm uma carga ideológica muito forte, e por isso lamento, mas isso não é um problema que esteja ao alcance da resolução do Sr. Presidente, é um problema interno que nós temos que resolver aqui em Portugal. E terminava novamente com cumprimentos.
Muito bem, Sr. Deputado, aqui em conversa lateral também abordávamos muito essa questão da nossa delegação. Não sei se a Sra. Deputada Esther Vargas quer usar a palavra. Não? Então, estão assim encerradas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Dava a palavra agora ao Sr. Presidente, eventualmente para esclarecer algumas dúvidas e perguntas que foram aqui feitas pelos nossos colegas parlamentares.
Merci beaucoup, Sr. Presidente. Merci beaucoup pour vos questions. Si j'ai bien compris, j'ai à peine 5 minutes pour répondre. Ok. Un petit peu compliqué. Alors, donc, il y a pas mal de questions qui se recoupent, notamment sur la politique européenne d'immigration. Moi, je suis intimement convaincu que c'est le devoir des institutions européennes, bien sûr de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, puisque nous avons aussi une commission qui est chargée des questions relatives à l'immigration, qui fait un travail important. Mais le travail qui est fait par la commission en charge des problèmes liés à l'immigration de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe doit être pris en considération par les gouvernements des 47. Et parmi les gouvernements des 47, il y en a quand même 28 qui sont membres de l'Union européenne. Donc le travail que nous faisons depuis longtemps, parce que depuis longtemps, le Conseil de l'Europe s'intéresse aux problèmes relatifs à l'immigration. Il faut qu'on le fasse en sorte que ces recommandations soient suivies des faits. Il faut qu'on fasse en sorte que le comité des ministres nous donne réponse aux recommandations qui sont votées par l'Assemblée parlementaire. C'est quand même nous qui avons la légitimité. Je ne mets pas en cause la légitimité des ambassadeurs qui siègent au comité des ministres. Enfin, nous sommes des parlementaires et lorsque nous travaillons sur des textes, lorsque nous faisons des propositions concrètes, lorsque nous demandons, lorsque nous exigeons qu'il y ait une réflexion commune au niveau de l'Europe sur cette politique d'immigration, je pense que nous sommes dans notre droit. La situation des travailleurs immigrés dans les pays membres du Conseil de l'Europe, qui englobe donc les 28 de l'Union européenne. Je rappelle que la Cour des droits de l'homme s'est déjà prononcée, a déjà exprimé un certain nombre d'arrêts qui condamnent un certain nombre de pays, dont la France d'ailleurs, par rapport à la situation tout à fait lamentable et inadmissible de certains donc, de ces travailleurs immigrés. Sur les relations interparlementaires, je suis intimement convaincu que il faut que nous renforcions, peut-être d'ailleurs au sein de l'UIP, qui a le mérite d'exister, l'Union interparlementaire, qui fait un travail important, mais ça c'est plutôt mondial. Mais au niveau de l'Europe, je pense que le Conseil de l'Europe, encore une fois, est le mieux placé pour favoriser les relations interparlementaires. Nous sommes un véritable forum au sein duquel toutes tendances politiques confondues, sans clivage politique, s'exprime. C'est ça aussi la richesse du Conseil de l'Europe. Il y a des groupes politiques qui sont structurés. Vous savez ce que j'en pense. Personnellement, je suis de ceux qui considèrent que le comité présidentiel, ce que j'ai moi la faiblesse d'appeler le Politburo, est devenu quelque chose qui me semble anachronique par rapport au fonctionnement même du Conseil de l'Europe et à cette maison qui prétend être la maison de la démocratie. D'ailleurs, pour cette raison que j'avais élargi le comité présidentiel, je ne sais pas ce que feront mes successeurs, j'avais élargi le comité présidentiel en intégrant en son sein les présidents des commissions. Bon, et puis cette conférence des présidents de délégation nationale que j'ai aussi créée me semble être quelque chose d'important. Donc les relations interparlementaires, oui, je pense que nous sommes véritablement les mieux placés. Vous avez parlé, madame, du centre Nord-Sud. C'est un sujet qui est délicat, un sujet qui est excessivement important. Moi, j'ai sous les yeux le rapport du groupe de travail ad hoc du comité des ministres sur l'avenir du centre Nord-Sud. Quand on regarde le contenu de ce rapport, mais à travers ce qu'ils écrivent, on ne peut qu'être convaincu de l'importance du centre Nord-Sud. Quand on regarde les missions telles qu'elles sont définies par le centre Nord-Sud, son profil, d'abord sans son profil, je pense que l'important, c'est ce quadrilogue dont on parle. C'est formidable de pouvoir être quatre parties autour de la table pour évoquer un certain nombre de sujets. Son rôle, contribuer à la politique du Conseil de l'Europe à l'égard du voisinage immédiat en assurant le dialogue et l'articulation entre les différentes parties du quadrilogue. Promouvoir la bonne gouvernance, les valeurs démocratiques, les principes, les normes, les standards du Conseil de l'Europe et faciliter le processus de réforme politique et démocratique, notamment des pays en transition. C'est un outil pour nous dont nous ne pouvons pas nous passer. En admettant qu'on supprime ce centre Nord-Sud, on va le remplacer par quoi? On va recréer un organe pour remplacer ce que nous aurons supprimé? Je crois que ça mérite quand même réflexion. Alors, il donne un délai jusqu'en 2015 pour répondre à un certain nombre de choses qui sont exigées. Mais pourquoi pas? On est tout à fait capable de s'adapter et puis de répondre point par point à ce que souhaite le comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le centre de Nord-Sud. Vous avez parlé de l'Union de l'Europe. J'en suis intimement convaincu qu'il faut que nous soyons unis et qu'on cesse de montrer du doigt les bons et les mauvais élèves. Bon. Moi, je le vis mal. Lorsque je préside les séances, et j'ai présidé beaucoup de séances, je peux expliquer pourquoi. Le siège n'est pas très confortable, au bout d'un moment on a envie de se lever, on a aussi besoin d'aller faire autre chose et tout. J'ai pris le choix de présider le plus de séances possible et de ne pas me consacrer à ce que certains auraient pu considérer comme les séances importantes. Ah bon ? Ça veut dire qu'automatiquement, il y aurait des séances moins importantes. Ça, je ne peux pas l'admettre. Bon. Et être uniquement présent quand on reçoit une personnalité, ça, je ne peux pas l'admettre non plus. Au président de s'organiser pour recevoir hors partie session celles et ceux qu'il a à recevoir et d'être présent en séance, parce que c'est aussi une marque de respect vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des rapporteurs et vis-à-vis du secrétariat des commissions, d'écouter, de suivre les débats qui ont lieu 4 semaines par an. C'est quand même pas un exploit pour le président d'être assis pendant les 4 parties de session à sa place pour écouter et prendre en considération le travail qui est fait. Donc moi, je suis intimement convaincu qu'il faut effectivement avoir une vraie réflexion sur le monitoring. Je me suis exprimé tout à l'heure pour essayer de faire en sorte d'éviter cette fracture. Vous avez parlé de mon avenir au Conseil de l'Europe. C'est un secret, c'est plus un secret. Vous savez très bien que je suis candidat au poste de secrétaire général au cas où la France accepterait de me soutenir. Parce que c'est évidemment la condition. Si le gouvernement français décide de ne pas me soutenir ou ne me répond pas, je ne peux pas être candidat, je ne peux pas être présenté par un autre pays. J'ai déjà eu des offres qui m'ont été faites par d'autres pays qui souhaiteraient présenter ma candidature. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas être candidat au nom d'un autre pays et que mon poste, la France, reste en dehors de tout ça. Donc j'attends la réponse de la France. J'espère qu'elle aura l'intelligence de comprendre que ce n'est pas un problème de politique politicienne, que c'est un problème important parce que je me fais une certaine idée du Conseil de l'Europe depuis que j'y siège en 1993 et je pense que je peux encore servir le Conseil de l'Europe. Et je n'ai pas vocation à me retrouver sur le banc de touche une fois que j'aurai quitté la présidence de l'Assemblée parlementaire et puis voir les trains passer. Bon, et j'ai envie de continuer à m'investir, mais c'est vrai que ce qui pourrait changer, c'est que si j'accédais à cette fonction, je ne travaillerai pas du tout comme mes prédécesseurs. Je ne peux pas concevoir le rôle du secrétaire général comme un travail solitaire. Pour moi, c'est un travail d'équipe, avec le président de l'Assemblée parlementaire, avec toutes celles et tous ceux qui ont des responsabilités, et excusez-moi du peu, avec les parlementaires. Parce que ce sont nous, les parlementaires, qui avons la légitimité. Donc j'attends avec impatience maintenant la position de la France pour savoir si oui ou non je pourrais être candidat à cette fonction. Vous l'avez compris, je veux un Conseil de l'Europe plus fort. Les relations entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, et j'espère que la signature de la Convention européenne des droits de l'homme par l'Union européenne va leur permettre de prendre davantage conscience qu'il faut qu'il y ait des relations et qu'ils utilisent le Conseil de l'Europe. Je l'espère, il y aura des élections européennes prochainement, et j'espère qu'un certain nombre de partis d'extrême droite ne feront pas leur entrée d'une manière trop massive au Parlement européen, parce que je pense que ça peut avoir des conséquences terribles. La Méditerranée, on en a beaucoup parlé, je suis intimement convaincu que c'est un vrai sujet et qu'il faut l'évoquer. Il faut l'évoquer, ça ne concerne pas uniquement les pays qui sont autour de la Méditerranée, ça concerne tout le monde, ce qui se passe autour de la Méditerranée. J'ai parlé du Conseil nordique, j'ai parlé de la mer Noire, j'aurais pu parler aussi de la mer Baltique, j'ai parlé des États indépendants. Si j'ai fait ces démarches et que je me sens concerné par ce qui se passe dans d'autres zones géographiques du continent européen, ce que j'aimerais, c'est que tous les pays, y compris ceux du Nord, s'intéresse d'un peu plus près à ce qui se passe autour de la Méditerranée. Et j'en reviens à une question. Il ne suffit pas de dire, quand on est tel ou tel pays nordique, allez, on va prendre quelques réfugiés, on va prendre notre quota de réfugiés. Le problème, il ne se situe pas là. Le problème, il n'est pas de savoir tel et tel pays, combien il va accepter de réfugiés sur son territoire. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de nous aider à régler le problème là où il faut le régler, de manière à ce que ces femmes, ces hommes, ces enfants, j'ai vu des situations dramatiques en Grèce, des enfants emprisonnés, j'en ai des frissons quand j'en parle, parce que j'oublierai jamais ces images, j'oublierai jamais ces bras à travers les barreaux de gamins, je suis père de famille, je suis même grand-père, de voir de gamins de 10, 12, 14 ans qui ne savent même pas ce que sont devenus leurs mamans, leurs papas, qui sont coupés de tout. c'est dramatique, c'est une véritable catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons. Et on peut peut-être pardonner à nos parents, à nos grands-parents, de ne pas avoir agi pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Nous, on n'a aucune excuse, on le voit en direct sur tous les réseaux sociaux, il suffit de prendre son portable, de l'allumer, on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit ces drames. Et si nous ne sommes pas capables, nous, le Conseil de l'Europe, de réagir, je dis que là, nous ne sommes pas bons et que nous ne sommes pas dignes de l'héritage qui nous a été légué par les grands anciens qui ont créé le Conseil de l'Europe en 1949. Vous avez parlé du discours de haine, c'est à nous, ces discours de haine, de les éradiquer, c'est à nous de faire... à travers notre action, les campagnes que nous menons, à condition qu'elles soient relayées, ces discours de haine, de les condamner. Moi, je suis choqué aujourd'hui dans mon propre pays de voir la ministre de la Justice, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est un être humain, c'est une femme, elle est de couleur. Et les attaques dont elle est l'objet aujourd'hui, les critiques, les méchancetés, comme d'ailleurs cette ministre de l'intégration italienne qui est l'objet de mots, c'est absolument inadmissible. On doit condamner ça. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Vous avez parlé de la traite des êtres humains. Nous avons un organe qui fait un excellent travail. C'est le GRETA, le groupe de travail qui est chargé de lutter contre tout ce qui touche à la traite des êtres humains. Nous avons les moyens de faire avec nos outils beaucoup de choses. Problème, c'est un problème financier. C'est la première fois, Monsieur le Président, vous le savez, la première fois cette année que le Conseil de l'Europe est en diminution. On a diminué le budget du Conseil de l'Europe, 215 millions d'euros, 315 avec les contributions volontaires, ce qui est moins que le seul budget de la Cour de justice de l'Union européenne. Un budget en diminution pour faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui à 47, pour s'intéresser à ce qui se passe au-delà de la Méditerranée, pour régler tous les problèmes auxquels on a réglé. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment on va continuer à pouvoir fonctionner. Sur la participation des parlementaires aux travaux de l'Union européenne, ouais, c'est un vrai problème, un vrai problème. Vous savez, je le vois quand je préside les séances, je le vois, parce que des fois, c'est un peu limite au niveau du quorum. Travail en commission, c'est un peu limite aussi au niveau du quorum. Il y a des textes qui sont votés, on pourrait quand même mettre en doute la sincérité des scrutins et la légitimité du scrutin dans la mesure où il y a même un problème de présence des parlementaires. Nous avons de la chance, nous, en France, puisque nous avons la possibilité de donner une délégation de vote, un pouvoir, en quelque sorte. Ce qui fait que les Français sont impardonnables. Lorsqu'ils ne sont pas à Strasbourg, ils n'ont aucune excuse. Par exemple, moi, j'ai obtenu avec facilité du président de l'Assemblée nationale française le droit de m'absenter, j'assume mes responsabilités à plein temps, hein, et j'ai donc une délégation de vote, un pouvoir permanent qui est donné à mon groupe politique pour qu'il puisse en faire bon usage. Donc nous n'avons aucune excuse. Pour vous, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les Allemands, c'est encore très compliqué. Pour tout le monde, c'est très compliqué. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Le calendrier des sessions du Conseil de l'Europe est arrêté longtemps à l'avance, mais même ça ne peut pas régler le problème. Et puis, il y a le problème de moyens, de manière à ce que les suppléants puissent aller à Strasbourg. Je n'ai pas la solution. Je n'ai de cesse, à chaque fois que je rencontre un président de Parlement, d'attirer son attention sur ces deux sujets. C'est vrai qu'il y a un problème de coût. Bon, et c'est quand même un peu dommage, parce que c'est vrai qu'un parlementaire, qu'il soit titulaire ou suppléant, et vous savez que c'est une des exceptions, une des originalités du Conseil de l'Europe, le titulaire ou le suppléant est appelé à jouer le même rôle. Ce qui est important, c'est que tous les sièges soient occupés dans l'hémicycle. Et quand je présidais la délégation française, j'avais l'œil sur les différents sièges de la délégation française. Ce qui comptait pour moi, c'est d'avoir 18 parlementaires en séance. Quelle que soit leur étiquette politique, le problème pour moi n'était pas là. Bon, voilà ce que je peux dire un peu longuement. Merci beaucoup.
Sr. Presidente, muito obrigado. Acho que está concluída a nossa reunião, mas antes de terminar eu gostava aqui de oferecer em nome da Comissão uma pequena lembrança, um petit souvenir da passagem do Sr. Presidente aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.